Alors, Annette, un livre complètement différent, effectivement, proposé par Régine Pernoud. C'est un récit autobiographique, je crois.
C'est donc un récit parfaitement autobiographique et on apprend à découvrir une dame vraiment très, très intéressante. Et entre autres, elle nous raconte au départ une partie de son enfance qui se déroule à Marseille et qui évoque absolument l'enfance à la Pagnole que nous avons vue dans les films l'hiver dernier.
Oui, tu pourrais nous donner une petite idée de ce que c'est que cette enfance tout à fait de Régine Pernoud.
Nous suivions notre mère à l'épicerie voisine, tenue par Monsieur Folletête. Sa boutique était encombrée de toutes sortes d'étagères, de boîtes, de cajots et de bonbonnes. Devant le comptoir de bois, une série de gros sacs de jute contenait les pois cassés, les haricots secs et les pommes de terre, tandis que les légumes et les fruits, dont certains que l'on ne consomme plus guère aujourd'hui, comme les nèfles, étaient dans des couffins. De larges fiasques enrobés dans des nattes de paille contenaient l'huile et le vin, car les liquides, comme aussi l'alcool à brûler ou le pétrole, n'étaient pas conditionnés à l'avance et on les servait à la demande. Il y avait des séries de récipients en étain sur le comptoir pour les mesurer. Toutes ces odeurs, avec celles du grain, de la cire, du savon, s'additionnaient pour former un mélange inimitable. L'épicier emballait les achats dans des cornets de gros papier gris qu'il roulait adroitement entre ses doigts. On discutait alors le prix de tout. Ce sont les grands magasins qui ont imposé le prix unique. Monsieur Folletête était un homme soucieux, car il avait deux filles dont on disait qu'elles se conduisaient mal. Et on en jasait beaucoup parmi les voisines, dont les langues étaient plutôt bien pendues. Alors, dans ses souvenirs de Régine Pernoud, on apprend beaucoup de choses sur cette femme écrivain. Donc, j'ai cité un petit peu comment elle décrit son enfance. Elle était donc d'une famille assez pauvre. Ils étaient 6 enfants dans la famille. Et elle a toujours été en lien très solidaire avec ses frères et sœurs. C'est d'ailleurs une femme qui ne s'est pas mariée et qui, jusqu'à la fin de sa vie, encore aujourd'hui, partage des lieux d'habitation avec ses frères. Elle a vécu avec sa mère, avec sa sœur. Et pour elle, c'était très, très important, ce lien familial. Et on découvre aussi, dans le début du livre, que donc, comme cette famille n'était pas bien riche, ils avaient besoin de s'entraider très, très fort. Il fallait aider la mère dans les travaux ménagers, il fallait supporter l'humeur du père qui était assez acariâtre, étant donné les problèmes qu'il rencontrait. Et on sent que ça a formé le caractère extrêmement dynamique et tenace de cette femme écrivaine, historienne. On apprend aussi, donc, comme on peut s'en douter, que dès qu'elle a commencé l'école, elle s'est révélée une très bonne élève et qu'elle a pu faire donc des études très bonnes, payées par des bourses comme on pouvait le faire à l'époque assez facilement, parce qu'elle était donc excellente. Elle nous apprend aussi que tout de suite, elle a travaillé. Et qu'en même temps qu'elle suivait des cours à l'université d'Aix-en-Provence, elle était déjà répétitrice dans un lycée de jeunes filles pour gagner 3 sous dont elle avait absolument besoin. Et c'est une des choses que j'ai trouvées extrêmement révélatrice dans ce livre, c'est de se rendre compte à quel point cette femme a travaillé. Elle a toujours travaillé et on a l'impression d'ailleurs que le travail ne lui pèse jamais. Pour elle, c'est presque la même chose que se distraire. Elle n'a pas du tout ce souci-là. Pour elle, ce qui compte, c'est réaliser quelque chose. Et ça se passe aussi bien par les travaux ménagers, les travaux pour subsister, que la rédaction d'un livre ou les soins à sa mère qui longtemps a été malade, par exemple. Je trouve que dans ce sens-là, c'est une vie assez exemplaire à découvrir. Évidemment, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que ça ne l'a pas empêché de participer à la modernité. Bon, vous avez vu dans le petit passage que j'ai lu qu'on a l'impression que c'est parfaitement archaïque, cette façon de vivre dans les années d'avant-guerre. Elle l'a fait avec beaucoup d'aisance, en fait. Pour elle, c'est des souvenirs très, très concrets qu'elle nous raconte au jour le jour. Et on sent très bien, jusqu'à la fin du livre, on la connaît aujourd'hui d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est parfaitement intégré dans le monde moderne. Et je pense que c'est effectivement toujours extrêmement intéressant de lire un document de ce genre-là, parce que ça nous remet en mémoire ce qui s'est passé au XXe siècle pour des gens qui aujourd'hui sont des gens parfaitement intéressants, cultivés, valables, qui ne pleurent pas sur la beauté perdue d'avant ou le calme qu'on pouvait vivre, je ne sais quoi, mais qui ne regrettent pas non plus le temps passé, mais en ont un souvenir qui est beau. Et vraiment, c'est une page d'histoire absolue, vivante, en fait.
Oui, c'est ça. C'est à travers l'autobiographie, on découvre en même temps une période historique qui nous fait découvrir des choses que nous, on n'a pas vécues, quoi.
Absolument. Et c'est sans aucune mièvrerie qu'elle nous raconte ça. Je vous lirai encore un petit passage où on voit bien, d'ailleurs, comment elle résiste à tous les problèmes politiques difficiles de la France en guerre. Mais en même temps, elle vit au jour le jour. Elle vit d'une manière extrêmement simple. Et cette simplicité qui est pour elle un art de vivre. Il y a un moment donné où elle parle d'ailleurs de sa méthode d'écriture, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Régine Pernoud est une femme extrêmement qualifiée, cultivée, et qu'elle a des connaissances en histoire, en sociologie et autres, immenses. Et les livres qu'elle écrit, donc les autres que ce livre de souvenirs, sont des livres parfaitement accessibles, même à des gens qui ne sont pas historiens, parce qu'elle sait faire passer le message. Et je crois que c'est pas seulement dû à sa qualité d'écriture, c'est dû vraiment à son caractère, à sa manière de vivre. Je pense que effectivement, le mot simplicité, mais pas simplificateur, hein, pas dans ce sens-là, dans le sens accepter les choses d'une manière calme et agréable, et sans se poser 10 000 questions. C'est vraiment ça qui mène sa vie, en fait. Et ça lui a permis de communiquer avec toutes sortes de gens.
Et donc, on va découvrir au fur et à mesure de son livre, justement, les différents pas, les différentes rencontres qu'elle va faire qui l'amèneront à son rôle d'écrivaine reconnue.
Oui, elle raconte surtout comment elle vit toutes ces années difficiles, parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle a dû travailler, c'était pénible, elle l'explique aussi. Pendant la guerre, elle a dû, avec ses frères, exploiter en fait une petite ferme dans le midi de la France, parce qu'ils avaient quitté Paris qui était occupé, ils avaient leur mère avec eux dont ils devaient s'occuper. Et elle a dû s'improviser paysanne, en fait. Pour elle, c'était vraiment compliqué. Elle n'avait pas d'argent. Elle a dû faire des travaux d'archiviste au départ, qui lui plaisaient plus ou moins, parce qu'elle était donc chez un privé. Et quand on est archiviste chez un privé, on est obligé de rédiger ce qu'il veut lui. Enfin, c'était l'histoire personnelle d'une famille riche française. Ce n'était pas tellement ça qui la passionnait, mais elle le faisait parce qu'elle était obligée de faire ce job. Ensuite, après la guerre, elle peut enfin faire quelque chose qui l'intéresse, c'est-à-dire elle donne d'abord des cours dans une université en France. Elle est dans le midi de la France à ce moment-là, et elle s'intéresse à la peinture moderne. C'est aussi une des caractéristiques de cette femme, c'est qu'on la connaît comme spécialiste du Moyen-Âge, elle est effectivement médiéviste en fait de formation, si on peut dire, mais elle s'est intéressée à des tas de choses. Et notamment, elle a fait donc des conférences à une époque de sa vie, juste après la guerre, dans les années 45. à des jeunes étudiants français sur l'art moderne. Quand on lui a proposé de faire ses conférences, elle était ravie parce que c'était enfin quelque chose de nouveau qui s'offrait à elle. À l'époque, il n'y avait pas le plein emploi et donc c'était pour elle l'occasion de gagner sa vie différemment. Mais elle n'était pas spécialement cultivée dans ce qu'était l'art moderne. Et comme elle le dit, j'appréciais l'art moderne, mais je ne le connaissais pas. Et pour rendre ses cours intéressants, elle s'est mise au travail. C'est une travailleuse acharnée. Et entre autres, elle a fait des démarches pour rencontrer les peintres de l'époque. Et j'aimerais bien vous lire sa rencontre avec Matisse. Avec lui, donc Matisse, avait commencé sur une note comique. Je lui avais écrit une belle lettre, déclinant titre, qualité, intention, etc. En réponse, m'est arrivé un télégramme transcrit avec application par une jeune intérimaire de la poste de Jouk. Vous recevrez tel jour, telle heure. Pour rendez-vous, demande fromage. Je suis restée perplexe. Peut-être, dans l'époque de privation où nous étions, ce genre de demande était-il courant? Je me suis souvenu que lors de ma visite à Bonnard, j'avais vu les deux visiteurs m'ayant précédé auprès du peintre sortir de leur poche un saucisson et le lui offrir au moment de prendre congé. Ils l'avaient d'ailleurs refusé, mais après tout. Pourtant, après réflexion et en ayant relu trois fois le télégramme, j'ai vu où était l'erreur. L'intérimaire s'était trompé dans la transcription du message télégraphique et le bon était sûrement « Vous recevrez tel jour, telle heure, pour rendez-vous demandé. Point hommage. » J'ai pensé à la tête qu'aurait faite Matisse si j'avais sorti un camembert en guise d'entrée en matière. J'étais terriblement intimidée dès ma descente du train à Nice. Je ne me souviens plus comment j'ai gagné Vence, sans doute en car ou en stop, mais je revois très bien la petite route qui monte jusqu'au village avec ses oliviers plus grands et plus fournis que ceux de Haute-Provence, le pont que l'on franchit en arrivant. C'était au moment de Pâques et la campagne était couverte de fleurs. Je suis arrivée dans l'après-midi à la Villa Montrêve où habitait Matisse et on m'a introduite dans une grande pièce décorée d'étranges plantes vertes. J'ai attendu quelques instants. Puis le peintre a fait son entrée par une porte au fond de la pièce, coiffé d'un chapeau beige et vêtu d'un costume sport, beige lui aussi.
Nous sommes vers quelles années là? Donc au lendemain de la Deuxième Guerre.
Entre 46-47, 1950. Et elle a donc l'occasion de rencontrer là un certain nombre de personnages extrêmement intéressants. Mais en fait, elle cherche vraiment à faire son métier. Elle a donc étudié à ce qu'on appelle l'école des chartes à Paris, qui est donc une école de bibliothécaires et archivistes extrêmement connus, et de conservateurs de musées. Et en fait, le métier de base de Régine Pernoud, c'est conservatrice de musées. Donc elle cherchait une place dans ce domaine-là. C'était très difficile pour elle. Et finalement, dans les années 50, elle est nommée pour la première fois au musée de Reims. Là aussi, elle raconte avec beaucoup d'humour ses premiers contacts dans ce musée extrêmement poussiéreux qu'elle a d'ailleurs rendu très intéressant. L'aspect intérieur du musée n'était pas très encourageant. Les salles étaient sombres et glaciales, et les œuvres exposées sans le moindre souci de présentation ni de mise en valeur. La carrière des musées était alors en pleine réorganisation au lendemain de la guerre, mais jusque-là, on avait souvent nommé comme conservateur en province un peintre local, un collectionneur de la ville, sans exiger de lui aucune formation particulière en muséologie. Mon prédécesseur à Reims était un peintre, un vrai peintre 1900 à Barbiche et Lavallière. Pour ne pas se compliquer la vie, il avait accroché les tableaux par rangées successives en suivant l'ordre alphabétique du nom des artistes. Jordaens suivait Jonkins, Corot suivait Clouet, etc. Le résultat était assez surréaliste. De plus, lorsqu'il n'y avait qu'une toile d'un peintre, elle était toute seule sur le mur. Mais quand il y en avait plusieurs, comme les 15 Corot que possédait le musée, il commençait presque au niveau du sol pour se terminer à cheval entre la corniche et le plafond. Alors ça, c'est la manière dont Régine Pernoud décrit son premier contact avec le musée de Reims. Et ensuite, elle raconte un petit peu qu'est-ce qu'elle a essayé de faire. Les premiers jours, je me suis trouvée assez désemparée. Je me levais le matin pleine d'enthousiasme et décidée à tout chambouler. Puis au bout d'un quart d'heure passé dans les salles désertes, à voir les gardiens somnoler sur leurs chaises, j'étais gagnée par un certain accablement. Il n'y avait pas moins de 7 gardiens permanents, mais je ne pouvais en principe rien leur demander de faire pour m'aider. Administrativement, ils étaient là pour attendre l'arrivée d'un visiteur, événement rarissime en semaine et pour rien d'autre. Déplacer les vitrines, réaménager les salles, ce n'était pas leur travail et personne n'était prévu pour cela. J'étais dans la situation d'un directeur de théâtre qui aurait eu une foule d'ouvreuses, mais pas de machinistes, d'électriciens, etc. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à comprendre ce qu'est l'administration. Je n'avais pas non plus de secrétaire, ni de logement de fonction. Les premiers temps, j'ai dormi sur un lit de camp dans une des salles et je me lavais dans les toilettes du public. Le musée était glacial et les gardiens m'avaient apporté un grand poêle que je remplissais à ras-bord et sur lequel je plaçais une bouilloire pour avoir de l'eau chaude. C'était les temps héroïques. Je faisais partie de la première fournée de conservateurs régulièrement nommés sur titre dans les musées de province.
Je sens qu'on aurait encore beaucoup d'anecdotes à découvrir, à voir comme elle raconte certains épisodes. Ça nous met beaucoup
Alors voilà,
à la bouche.
C'est un livre assez important qui compte donc 332 pages.
On a encore de quoi découvrir.
Voilà, mais qui se lit donc avec énormément de facilité, une fois de plus, parce qu'elle sait raconter avec énormément d'humour toutes ses petites aventures. Et en même temps, elle se livre à des réflexions assez importantes sur l'art, sur justement le réaménagement des musées. Ou bien elle raconte aussi un petit peu comment elle a rédigé certains livres. Et on apprend mieux à comprendre quelle a été la carrière de cette femme qui a travaillé dans différents domaines.
Pour terminer notre rencontre aujourd'hui avec la librairie des femmes L'Inédite à Genève, et bien Annette, tu nous parles du dernier catalogue qui est sorti, qui va offrir toutes sortes de possibilités à nos auditrices et auditeurs pour faire des cadeaux de Noël si tel était
voilà.
leur désir.
Donc le catalogue est actuellement sous presse, il sera envoyé, d'ailleurs il quitte, je pense, l'imprimeur actuellement. Nous allons le mettre sous enveloppe demain, donc il arrivera très bientôt auprès de toutes nos abonnées. Il est disponible à la librairie pour toutes celles de nos auditrices qui s'y intéresseraient, pour avoir une idée d'un certain nombre de livres, certains dont j'ai parlé ce soir, d'autres qui sont des romans ou des témoignages sur différents sujets. On présente les nouveautés générales de cette fin d'année. Vous trouverez aussi dans notre catalogue des suggestions d'achat pour Noël avec des livres d'art, des livres avec des photographies. Et je vous cite simplement deux ouvrages parmi toute notre série. Un ouvrage destiné essentiellement, peut-être d'abord aux dames, mais peut-être pas forcément, qui s'appelle Corset et soutien-gorge, et avec des magnifiques photographies d'époque. Et nous avons aussi choisi pour les fêtes de Noël un magnifique album consacré à Frida Kahlo, avec des reproductions de ses œuvres qui sont donc très peu connues. On connaît bien le livre, sur la biographie de Frida Kahlo, mais en fait, on connaît mal son œuvre. Et c'est l'occasion peut-être de la découvrir pour faire un cadeau de Noël intéressant aux personnes qui s'intéressent aux peintres féminins. Alors, il y en a d'autres que vous pourrez découvrir dans notre catalogue. Et la librairie terminera l'année d'ailleurs en beauté en invitant jeudi prochain 17 décembre, donc c'est les nocturnes, donc beaucoup de gens seront sur pied dans la ville et pourront faire le détour jusqu'à Carouge pour assister à une dédicace d'un livre d'Hélène Besançon, qui est donc une jeune femme de nouveau suisse romande qui vient du canton de Neuchâtel et qui vient d'écrire un livre publié chez Bernard Campiche et qui s'appelle « La mangeuse de lune ». Alors nous aurons l'occasion d'avoir Hélène Besançon en personne à la librairie qui dédicacera son livre, accompagnée par Anne Bizang, une comédienne connue à Genève aussi, qui lira des extraits du livre.
Anne Bizang de l'association Femmes de Théâtre, voilà. Rappelons-la, parce qu'elle est très active dans cette association.
Elle est très active, voilà. Elle nous a proposé aussi avec nous d'animer cette soirée. Et nous sommes ravis de les accueillir les deux. Donc, je répète, jeudi prochain, 17 décembre, de 19h à 21h, à Carouge, 18 Cardinal Mermillot, à la librairie L'Inédite.
Imaginez que vous offrez un livre d'une écrivaine suisse romande et... avec une signature à destination de la personne à laquelle il est dédié, et ça, ce sera un très très beau cadeau de Noël, n'est-ce pas?
En plus, le livre s'appelle La mangeuse de lune, ça fait rêver.
Voilà. Alors moi, j'ajouterais juste un titre aux listes que tu as données, Annette. C'est le livre dont nous parlerons d'ailleurs dans notre première émission du mois de janvier, de retour en direct le mercredi 13 janvier. C'est un livre écrit par une écrivaine qui aujourd'hui vit en Suisse, mais qui a vécu longtemps en Afrique du Sud, et ce sera le thème de son livre. Le livre est écrit par Marie-Noëlle Andersen, avec pour titre « Couleur d'exil », couleur au pluriel, publié chez Canva et aux éditions de l'Air. Alors, si vous avez l'occasion aussi de le lire pendant les vacances, eh bien, vous suivrez beaucoup mieux la rencontre que nous aurons en direct avec Marie-Noëlle Andersen dans nos studios le mercredi 13 janvier. Voilà, alors pour cette première édition, c'est fini. Librairie L'Inédite, on vous souhaite une bonne fin d'année, un joyeux Noël, Annette, et puis on se retrouve l'année prochaine.
Alors, merci beaucoup Catherine, et à bientôt.
J'étais petite en soquette blanche, j'étais grande blonde aux yeux pervers. Enflammée, le four remoulé, lunettes fumées.
C'était Catherine Lara, pardon, dans Fatal. Pour notre deuxième partie d'émission, je vous propose d'écouter un débat que j'avais animé lors du dernier Salon du Livre au sein du Village Alternatif 92. Un débat qui avait pour thème une autre façon de parler du sida auprès des jeunes. La semaine passée, c'était la Journée internationale du sida. Eh bien, je me suis dit que de se remettre dans ce débat qui avait mis en présence des personnes de l'association Personnes vivant avec le sida, PVA, et qui avait eu envie de rencontrer de jeunes collégiens et collégiennes pour évoquer avec eux le problème du sida d'une autre façon dont on en parle habituellement, puisque eux, comme ils le disent, sont bien vivants, ils ont encore beaucoup de choses à dire, même s'ils sont séropositifs, et ils doivent vivre avec cette maladie et ont envie d'en parler autrement. Alors, tout de suite, ils se présentent, les différentes personnes qui vont participer au débat de l'association Personnes avec vivant avec le sida et les jeunes écoliers.
Alors tout d'abord, de l'association des personnes vivant avec le sida, Iris, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oh, le micro.
Bonjour messieurs, dames. Je suis Iris Reteller, présidente de la PVA Suisse. Ça fait 6 ans et demi que je suis séropositif. Et je ne sais pas si les autres membres de la PVA avaient encore expliqué qu'est-ce que notre association est en train de faire. Nous existons pendant 1 année et quelques mois. Et puis, nous nous battrons contre les discriminations, plus contre les personnes atteintes. Et puis, je pense que je vais donner le mot encore un peu plus loin.
Ouais, Sylvie, qui est aussi du groupe de l'Association des personnes vivant avec le sida.
Voilà, alors moi, je fais aussi partie du comité. Et je trouve que c'est important que les gens concernés se mobilisent pour défendre, en fait, nos droits et pour ne plus être ces personnes dont on parle, mais nous sommes des gens qui sont encore vivants et on a des tas de choses à dire, des tas de choses à faire. Et on veut montrer aussi nos visages pour voir qu'il n'y a pas grande différence avec vous qui peuvent être dans la salle.
Philippe.
Donc juste Philippe, aussi des PVA. Donc il y a une association nationale. C'est pour ça qu'Iris a un petit accent. C'est parce qu'elle vient de Zurich et puis qu'on a des gens de Berne, on a des gens de Lausanne, des gens de Genève, du Tessin. Je crois que c'est important. On commence simplement à émerger. Je crois que le sida, ces dernières années, c'est resté encore quelque chose qui a eu très peu de visages, sinon quelques célébrités à l'étranger, mais en Suisse, pas grand monde, des témoignages anonymes. Je crois qu'on a envie aussi d'arrêter un petit peu ces témoignages anonymes. Nous ne sommes pas non plus uniquement des genres de personnages de bande dessinée. Nous sommes en chair, en os, encore vivants. Et je crois qu'on peut aussi faire un dialogue, parce qu'avec une bande dessinée, le dialogue, il est un peu limité.
Dominique Roulin, qui est pasteur au ministère SIDA, peut-être elle nous explique en quoi ça consiste, et au comité du groupe SIDA Genève.
Bonjour, je m'appelle Dominique, donc je suis pasteur et je travaille. Une partie de mon travail consiste à faire des choses et à partager un bout de route avec des gens concernés par le sida. Et puis je suis aussi membre du comité du groupe SIDA Genève, qui est une association qui lutte aussi contre le sida à Genève.
Et puis, quatre jeunes, tel était le souhait de l'association des personnes vivant avec le sida et du groupe SIDA, c'est le dialogue avec les jeunes. Alors Gilles, peut-être tu peux te présenter en quelques
Bonjour,
mots.
Bonjour, je m'appelle Gilles, je suis collégien à Rousseau et je suis concerné comme tout le monde ici par le sida, voilà.
Laetitia.
Oui, bonjour. Je suis contente d'être ici pour avoir un dialogue avec des gens ayant un séropositif.
Sophie.
Alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir parler avec des gens qui sont séropositifs.